chers auditeurs et chères auditrices, re-bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 6 de la sainteté. Le titre sera « La sainteté par la puissance du Saint-Esprit ». Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire ceci. N'ayez pas peur d'écouter certains CD deux fois. Comme vous le savez, j'ai maintenant un âge très certain. Alors, j'ai plus besoin de prétendre quoi que ce soit pour essayer de paraître ce que je ne suis absolument pas. Aussi, je n'ai pas honte de vous avouer que certains passages de la Sainte Bible que je ne me rappelle seulement, je m'en rappelle seulement quand je les relis à nouveau, car je les avais totalement oubliés. Alors, je les redécouvre dans ma mémoire, qui est, hélas, maintenant, devenue comme une passoire à café. Que quand je les relis maintenant, pour les CD que je prépare, eh bien, je m'en rappelle tout à coup. Je crois que pendant notre séjour sur cette terre, nous les humains, même les plus brillants et les plus éloquents parmi nous, et même avec une intelligence augmentée par les nouvelles techniques, nous resterons malgré tout, vraiment malgré tout, nous resterons très limités par rapport à Dieu, il n'y a pas de comparaison. Donc, continuons donc notre série. Encore une fois, ce que nous disons n'est pas forcément faux en général. Nous ne creusons tout simplement pas assez profondément pour comprendre ce qui rend un conseil bon et vrai. Remets tout à Dieu, c'est peut-être un sage conseil. Mais qu'est-ce que ça veut dire de remettre tout à Dieu? Comment au juste pouvons-nous lui remettre quelque chose? Une autre personne ne pourrait aussi bien vous dire de saisir les promesses de Dieu. Oui, oui, d'accord, mais quelles promesses? Et comment ces promesses m'aideront-elles à faire les bonnes choses droit maintenant? Il est possible, chers amis, d'être entièrement biblique, mais complètement inutile, particulièrement en ce qui a trait à la poursuite de la sainteté. La plupart des chrétiens savent que la sanctification implique que Dieu travaille en nous, alors que nous mettons en œuvre notre salut avec crainte et tremblement. Notez Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. J'aimerais que vous notiez, si possible, les indications que je vous donne pendant cette étude, parce qu'il y en a beaucoup, et surtout pour que vous puissiez comprendre que je n'essaye pas de raconter une théologie personnelle, mais que je me base uniquement, ou j'essaye humblement de me baser sur la sainte parole de Dieu, avec, hélas, tous mes défauts. Il est vrai, je le répète, je ne suis hélas pas parfait. J'espère que nous serons tous d'accord avec John Owen, un éminent théologien qui croit que essayer d'être saint par nos propres forces, par nos propres moyens et notre propre justice, que c'est à la base de toutes les fausses religions du monde. Ce serait donc une grave erreur de prétendre que la justification ne regarde que Dieu et que la sanctification ne regarde que nous. Nous voulons travailler, nous voulons servir et parler, non pas par notre propre force, mais par la force que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. Mais encore, il n'est pas évident de savoir ce que cette déclaration veut réellement dire. Comment Dieu travaille-t-il en nous alors que nous essayons de mettre en pratique ce genre de déclaration? Comment servir par la force de Dieu plutôt que par nos propres forces? Ou plus précisément au sujet de notre recherche de sainteté, que veut dire déployer des forces, des efforts par la puissance du Saint-Esprit, se laisser conduire par l'Évangile et être alimenté par la foi? On a beau de dire que nous devenons saints lorsque nous laissons le Saint-Esprit travailler en nous, ou que nous laissons l'Évangile remplir notre cœur, ou encore lorsque nous combattons afin de croire à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ou que nous courons vers Jésus. Mais comment tout cela se passe-t-il réellement? Comment Dieu utilise-t-il le Saint-Esprit, l'Évangile et la foi pour rendre possible la sainteté dans notre réalité? Tout d'abord, la sainteté, c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est tout à fait logique que le Saint-Esprit joue un grand rôle dans notre sanctification. Selon la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit Saint, afin que nous devenions obéissants et que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Dans ce verset, le mot sanctification a deux sens. Le Saint-Esprit nous met à part en Christ, afin que nous soyons lavés par son sang précieux. Ça, c'est la sanctification définitive. Et il travaille en nous, afin que nous obéissions à Jésus-Christ. Et ça, c'est la sanctification progressive. Donc, par le Saint-Esprit, nous recevons une nouvelle identité ainsi qu'une nouvelle force. Comme l'apôtre Paul le dirait, puisque nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit, par cet Esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Romains chapitre 8, versets 9 à 13. Tout cela nous ramène à la même question pratique. Que fait l'Esprit Saint en nous pour nous rendre saints? D'une part, le Saint-Esprit nous permet d'être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Donc l'œuvre du Saint-Esprit est souvent liée à sa puissance. Actes chapitre 1, verset 8 et Romains chapitre 15, verset 19. Cette puissance, elle peut se manifester par des signes et des prodiges, des dons spirituels. Tout cela pour l'édification du corps de Christ, ainsi que l'habileté de porter du fruit spirituel. De même, l'Esprit Saint, qui était présent lors de la création du monde et qui vous a permis de naître de nouveau, elle est à l'œuvre pour vous fortifier puissamment dans votre homme intérieur qui est votre volonté. Tout cela afin que vous résistiez au péché auquel vous ne pouviez résister auparavant et que vous fassiez les bonnes œuvres qui seraient autrement impossibles à accomplir. Les chrétiens défaitistes, et il y en a, qui ne se battent pas contre le péché sous prétexte que, hélas, ils sont nés ainsi, paraît-il. Et ils ne changeront donc jamais. Ou qu'ils n'ont pas assez de foi, alors ils ne font preuve d'aucune humilité, ceux-là. Ils déshonorent le Saint-Esprit qui nous confère une puissance surnaturelle. Est-ce qu'il faudrait répéter cela? Les chrétiens défaitistes, qui ne se battent pas contre le péché sous prétexte qu'ils sont nés, hélas, ainsi, et qu'ils ne changeront donc jamais, ou qu'ils n'ont pas assez de foi, ils ne font preuve d'aucune humilité. Car ils déshonorent le Saint-Esprit qui, lui, nous confère une puissance surnaturelle. Ce que fait le Saint-Esprit pour nous sanctifier ne se limite pas à cela. Non seulement l'Esprit Saint est puissant, mais il est aussi une source de lumière. Il brille dans les coins sombres de notre cœur et nous convainc en ce qui concerne le péché. Notez Saint Jean, chapitre 16, versets 7 à 11. Il est donc une lampe qui illumine la Sainte Parole et qui enseigne ce qui est vrai et montre à quel point cette vérité est précieuse. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6 jusqu'au verset 16. Le Saint-Esprit met le Christ en lumière. Tout cela afin que nous puissions voir sa gloire et être transformés. Saint Jean chapitre 16, verset 14. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 nous dit: nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, à l'image de la gloire et en gloire, par l'Esprit Saint du Seigneur. Tout comme le visage de Moïse, rappelez-vous, a été transformé en voyant la gloire du Seigneur sur le mont Sinaï, Exode, chapitre 34, verset 29. Et notez aussi 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Donc nous serons transformés lorsque par le Saint-Esprit nous verrons le visage de Jésus resplendissant de la gloire de Dieu. Alléluia. En bref, le Saint-Esprit est pour nous une lumière de trois façons. Premièrement, il dévoile le péché afin que nous le reconnaissions et que nous nous en détournions. Deuxièmement, il illumine la Sainte Parole afin que nous comprenions tant ce qui est écrit que ses applications dans notre vie. Et troisièmement, il retire le voile afin que nous puissions voir la gloire de Jésus-Christ et devenir comme lui. En d'autres mots, l'Esprit Saint sanctifie en révélant le péché, en révélant la vérité et la gloire. Selon la Sainte Bible, dès que nous détournons notre regard de sa lumière, eh bien, nous nous opposons inévitablement au Saint-Esprit, selon Actes chapitre 7, verset 51. Ça veut dire, nous l'éteignons, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, ou nous l'attristons, Éphésiens 4, verset 30. La nuance entre ces trois termes est peut-être subtile, mais ils décrivent toutes ces situations où nous rejetons l'œuvre de sanctification qu'accomplit le Saint-Esprit dans notre vie. S'il vous plaît, écoutez ceci. Si nous cédons au péché, si nous abandonnons le bien, ce n'est pas parce que la puissance du Saint-Esprit affaibli ou a failli, mais parce que nous avons préféré les ténèbres à la lumière. Saint Jean chapitre 3 verset 19 et 20. Je répète, si nous cédons au péché, si nous abandonnons le bien, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit a failli, mais parce que nous avons préféré les ténèbres à la lumière, tout simplement. Saint Jean chapitre 3, versets 19 et 20. Il semble donc que presque tous les chrétiens sont convaincus que la sainteté personnelle découle d'une véritable compréhension de l'Évangile. Ça, c'est vrai. Jusqu'à un certain point, et on en reparlera, justement, nous ne dépassons pas assez ce point-là. Nous devons être beaucoup plus précis. Comment exactement les bonnes œuvres découlent-elles de la bonne nouvelle? Permettez-moi de proposer quelques façons. Premièrement, l'Évangile veut que la sainteté jaillisse d'un sentiment de gratitude. Ça, c'est la pensée sous-jacente à Romains chapitre 12, versets 1 et 2. En pensant aux bienfaits de Dieu énumérés dans Romains chapitre 1 jusqu'au chapitre 11, par exemple, il y a là la justification, il y a là l'adoption, la prédestination, l'expiation, la réconciliation, la préservation, la glorification. Donc, notre gratitude devrait être exprimée par l'obéissance aux impératifs des chapitres 12 jusqu'au chapitre 16 de Romains. Comme le fait remarquer le célèbre John Stott, ce n'est pas par accident qu'un même nom grec qu'on prononce charis sert à désigner tant la grâce que la gratitude. Bien sûr, nous devons veiller à ne pas voir la gratitude comme une sorte d'éthique du débiteur, comme si Dieu, ayant fait preuve de miséricorde, s'attendait maintenant à ce que nous lui obéissions toute notre vie, uniquement à titre de réciprocité pour compenser. Non, non, nous ne pouvons jamais, jamais rembourser Dieu pour quoi que ce soit. Notez Romains, chapitre 11, verset 35. Toutefois, si nous comprenons tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus, eh bien nous serons heureux et nous désirerons lui plaire. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord que l'Évangile nous aide dans notre poursuite de la sainteté en nous disant la vérité sur qui nous sommes. Certains péchés deviennent plus difficiles lorsque nous comprenons notre nouvelle position en Jésus-Christ. Si nous sommes des héritiers de la terre, pourquoi convoiter? Si nous sommes la propriété chérie de Dieu, pourquoi être jaloux? Si Dieu est notre Père, notre Papa, pourquoi avoir peur? Si nous sommes morts au péché, pourquoi continuer à vivre comme si ce n'était pas le cas? Si nous nous rattachons à Jésus-Christ, pourquoi courir après notre vieille vie de péché? Si nous sommes aimés d'un amour infini par Jésus-Christ, eh bien pourquoi chercher à prouver notre valeur aux yeux du monde? Si Christ est tout en tous, pourquoi être si préoccupé par nous-mêmes? Oh là là, ça fait mal, n'est-ce pas? Ce dernier paragraphe constitue ce que Martin Lloyd-Jones, un célèbre théologien, appelle se parler à soi-même plutôt que de s'écouter. À parler à soi-même plutôt que de s'écouter. Il est facile de se convaincre que nous ne pourrons jamais changer ou que Dieu perdra patience et nous rejettera un jour lorsque nous répéterons la même erreur pour la millième fois. Alors, s'il vous plaît, ne vous écoutez pas. Retournez à l'Évangile et rappelez-vous qu'il n'y a plus de condamnation pour qui? Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Romains, chapitre 8, verset 1. Souvenez-vous que l'Esprit Saint de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite maintenant en vous. Verset 11. Rappelez-vous que vous êtes enfant de Dieu et qu'en tant que tel, vous êtes aussi héritier. Versets 16 et 17. Souvenez-vous que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Versets 38 et 39. Dieu nous donne plus de grâce, selon Jacques, chapitre 4, verset 6. Approchez-vous donc de lui et reconnaissez que vous êtes en lui et continuez à nettoyer vos mains et à purifier vos cœurs. Verset 8 de Saint Jacques, chapitre 4. Chers amis, apprenons à nous appuyer sur les promesses de Dieu, tout simplement. La foi joue évidemment un rôle essentiel dans le christianisme. Mais cela ne fait aucun doute. La justification vient par la foi et sans les œuvres de la loi. Romains chapitre 3, verset 28. Mais quel rôle, oui, quel rôle joue la foi après que nous sommes sauvés? Par la foi, nous sommes justifiés. Et par la foi, nous faisons tout effort pour être sanctifiés. La foi est opérationnelle dans les deux cas, c'est-à-dire dans la justification pour l'acquisition et le repos, et dans la sanctification pour le vouloir et le faire. Je répète, dans la sanctification pour le vouloir et le faire. D'une certaine façon, nous avons déjà parlé de la foi, de la confiance en l'Évangile et de croire ce que nous dit la Sainte Bible au sujet de notre position en Jésus-Christ. Toutefois, dans la poursuite de la sainteté, il faut que nous regardions au-delà des actes de rédemption passés. Nous devons regarder en avant et nous devons avoir confiance en la grâce future. Il y a dans notre cœur des désirs qui ne seront satisfaits que par la promesse d'une bénédiction à venir. De quelle autre façon l'espoir de la gloire aurait-elle un sens? La Sainte Bible regorge des promesses de Dieu, et ces promesses sont destinées à ravitailler en carburant le moteur de notre obéissance. Je m'expliquerai à l'aide d'un passage connu de l'Écriture sainte, le fameux sermon sur la montagne. Ces trois chapitres, Matthieu 5 jusqu'au Matthieu chapitre 7, ces trois chapitres sont remplis de commandements. Je dis bien de commandements. Ils sont également remplis de promesses. Et certains sont de jugements. Et d'autres encore sont et parlent de grâces futures. Eh bien, commençons par les béatitudes. Elles constituent toutes les promesses de bénédiction en tout genre. Les débonnaires, est-il dit, hériteront la terre. Saint Matthieu chapitre 5, verset 5. Les persécutés obtiendront le royaume de Dieu. Verset 10. La récompense des outragés sera grande. Verset 12. En ce qui me concerne, Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est le verset qui m'a le plus aidé à lutter contre la convoitise. Remarquez que Jésus remplace un plaisir par un plaisir encore beaucoup plus grand. L'impureté sexuelle peut être agréable pour l'instant. Mais Jésus promet, il promet une bénédiction encore beaucoup plus grande pour ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Les promesses se succèdent donc dans le sermon le plus connu au monde. Plusieurs servent d'avertissement. Celui qui tue est passible de jugement. Saint Matthieu chapitre 5, verset 21. Et quiconque dit « tu es un peu fou » ou « tu es insensé » mérite l'enfer. Verset 22. C'est lui qui ne freine pas sa convoitise le mérite aussi, versets 29 à 30. Celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné non plus, chapitre 6, verset 15. celui qui choisit le chemin spacieux et qui marche vers la perdition. Chapitre 7, verset 13. Et la maison de celui qui entend les paroles de Jésus et ne les met pas en pratique tombera. Chapitre 7, verset 26 et 27, on a parlé de Saint Matthieu. Chapitre 7, verset 26 et 27. Bien que négatives, ce sont toutes des promesses destinées à vous donner la force d'obéir. Jésus a aussi promis des bénédictions. Oh oui, celui qui enseignera à observer les commandements sera appelé grand dans le royaume des cieux. Saint Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui qui passe par la porte étroite et emprunte ce chemin, il trouvera la vie. Chapitre 7, verset 14. Celui qui entend les paroles de Jésus et qui les met en pratique sera en sécurité. Chapitre 7, verset 24 et 25. La source de motivation que Jésus veut pour nous, eh bien, ce sont des récompenses réelles et éternelles. Il comprend que combattre contre le péché implique de faire confiance en notre Père céleste. Et c'est la raison pour laquelle l'inquiétude est non seulement un trait de personnalité étrange, mais c'est un signe de notre incrédulité. Verset 30. Si nous avons la foi dans la grâce à venir de Dieu, eh bien nous chercherons premièrement le royaume de Dieu et nous croirons que Dieu nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Verset 33. Notre Père promet de donner de bonnes choses à tous ceux qui les lui demandent. Chapitre 7, verset 11. Puisqu'il est le Dieu de notre alliance, eh bien ses bénédictions sont garanties à tous ceux qui lui obéissent, tout comme ses malédictions sont pour ceux qui lui désobéissent. Nous ne nous attendons peut-être pas à voir ces promesses s'accomplir, si elles ne s'accompliront peut-être que dans notre prochaine vie. Hébreux chapitre 11, versets 39 et 40. Mais elles sont toujours bonnes et elles ont toujours pour but que nous devenions davantage comme Jésus-Christ. Romains chapitre 8, versets 28 et 29. Donc la vie sainte est toujours une vie de foi. Croyons de tout notre cœur que Dieu accomplira ses promesses. Une dernière chose. J'ai parlé de la foi dans l'Évangile ou de la foi dans les promesses de Dieu, particulièrement en ce qui a trait aux promesses de sa grâce à venir. Cependant, nous pourrions également parler de la foi en général dans la sainte parole de Dieu. C'est essentiellement ce en quoi consiste la guerre spirituelle. Croire la vérité de Dieu plutôt que le mensonge du diable. Car Satan, c'est le père du mensonge. Et l'une des armes, c'est la tromperie. Il ment au sujet de Dieu. Il ment sur votre péché. Il ment au sujet de votre pardon. Il ment sur la Sainte Bible. Donc, résister au diable, cela n'a rien à voir avec les maisons hantées et les possédés dont la tête tourne en tous les sens. c'est une question de foi, croire la vérité plutôt que le mensonge. C'est ce dont il est question en Éphésiens chapitre 6, où il est dit « Mettez la ceinture de la vérité, prenez le bouclier de la foi, saisissez l'épée de l'esprit. » Dans cette guerre spirituelle, vous restez ferme devant les ruses du diable lorsque vous vous trouvez solidement ancré dans la sainte parole de Dieu. Et je vous recommande d'écouter sur Internet 3xW bible explique en un seul mot.ch la guerre spirituelle. Très intéressant et très important. Chers amis, l'effort, oh, on n'aime pas beaucoup ça. On n'aime pas l'effort et on n'aime pas la discipline. L'effort n'est pas du tout un mot à bannir de notre vocabulaire. Oui, c'est l'Esprit Saint que nous donne la force pour suivre la sainteté. Oui, c'est l'Évangile qui nous pousse à rassembler à Jésus-Christ. Oui, c'est la foi qui alimente notre obéissance. Toutefois, nous devons continuer à faire un effort. L'obéissance, elle n'est pas automatique. Le produit de la miséricorde de Dieu dans notre vie, on doit premièrement nous dire d'obéir pour que ensuite nous puissions le faire. Dieu est l'agent de notre sanctification, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. C'est lui qui nous rend saints. Nous devons toutefois rechercher ce cadeau que Dieu nous donne. Et lorsque vient le moment de mettre à mort mon péché, je n'attends pas passivement le miracle qui tuera peut-être le péché pour moi, mais j'enclenche une bataille. Je vais donc agir. Voici le témoignage constant du Nouveau Testament. La croissance dans la sainteté exige des efforts de la part du chrétien. Romains, chapitre 8, verset 13. Là, il est dit que par l'Esprit Saint, nous devons faire mourir les actions du corps. En Éphésiens, chapitre 4, verset 22 à 24, là, on nous instruit à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Colossiens chapitre 3 verset 5 nous commande de faire mourir ce qui est terrestre dans nos membres. 1 Timothée chapitre 16 verset 12 nous incite à combattre le bon combat. Je répète, 1 Timothée chapitre 6 verset 10 verset 12 nous incite à combattre, à nous bagarrer, à combattre le bon combat. Saint Luc chapitre 13 verset 24 nous exhorte à nous efforcer d'entrer par la porte étroite. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24 à 27 parle d'entrer dans la course et de discipliner son corps, c'est-à-dire d'agir. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14, parle de courir vers le but, oubliant ce qui est en arrière, et nous portons vers ce qui est en avant. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5, nous commande de déployer tous nos efforts. Votre rôle à vous, en tant que croyant qui est né de nouveau, c'est donc de travailler en combattant avec sa force. Alors que Jésus-Christ agit puissamment en vous. Colossiens chapitre 1, verset 29. Nous ne devons jamais oublier que selon Jésus, la récompense de la vie éternelle, elle sera accordée à tous ceux qui sont vainqueurs. Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Oh, je suis d'accord avec vous que de boire tranquillement une tasse de café assis dans un beau fauteuil, cela nécessite beaucoup moins d'efforts. Les chrétiens travaillent. Ils travaillent à faire mourir le péché et à vivre par l'Esprit Saint. Ils trouvent le repos auprès de l'Évangile qui est mis, donc, qui, on peut dire l'Évangile, et c'est une lutte constante dans la chair et contre le diable. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu, il est connu pour deux choses. Il est connu pour sa guerre intérieure et pour sa paix intérieure. En tant que chrétien qui s'appuie sur l'Évangile, nous ne devrions pas avoir peur de l'effort. Nous ne devrions pas avoir peur du combat et du travail. Ces paroles, elles sont bonnes et elles sont bibliques. Je répète, en tant que chrétien qui s'appuie vraiment sur l'Évangile, eh bien nous ne devrions pas avoir peur de faire des efforts. Nous ne devrions pas avoir peur de combattre et de travailler. Aucun chrétien ne saurait atteindre un certain degré de sainteté si le Seigneur n'est à l'œuvre dans sa vie, mais il ne l'atteindra pas non plus s'il n'y consacre tous ses efforts. Dieu a créé les conditions qui nous permettent de marcher dans la sainteté, mais c'est bien à nous, à vous et à moi, d'y marcher. Il peut se substituer à nous. Il peut se dépouiller des œuvres de la chair. Et selon Calvin, il y a vraiment un dur labeur qui nécessite de prodigieux efforts. Oh oui, même Calvin a reconnu qu'il fallait beaucoup d'efforts. Et c'est pour cette raison Dieu nous ordonne de nous battre et de faire tous les efforts possibles dans cette direction. Il nous annonce que pour y parvenir, nous ne devons jamais succomber à la paresse. En ce qui concerne la sanctification, il n'est pas suffisant de nous tourner simplement vers le Seigneur et d'être saisis par l'Évangile, mais il faut travailler dur pour devenir saint. Ne répétons pas l'erreur de la vieille théologie de Creswick avec sa vision de la sainteté qui dit « Oh, abandonnez simplement tout et laisser Dieu agir. Let go and let God. Dans le livre Le secret du chrétien pour une vie heureuse, un classique regrettable du mouvement de Higher Life, la vie plus haute. Des éminents spécialistes de la Bible soutiennent que tout ce à quoi nous pouvons prétendre dans cette vie de sanctification consiste simplement à nous placer entièrement dans les mains du Seigneur par un pas de foi, afin qu'il travaille, lui, en nous, selon son bon plaisir et de sa volonté, et que par un exercice de foi constant, eh bien, nous pourrons y rester. Notre rôle, au contraire, c'est de croire que c'est à Dieu lui-même, d'obtenir des résultats pour nous. Voyez-vous, tout cela peut nous sembler très, très spirituel. Ça a l'air formidable, mais c'est hélas pas du tout biblique. Car, la sanctification ne vient pas lorsque nous abandonnons tout, mais elle vient lorsque nous déployons des efforts et que nous travaillons très dur grâce aux moyens que Dieu met à notre disposition. Voici ce que dit du reste Martin Lloyd-Jones, un exceptionnel et exégète. Il nous dit, le Nouveau Testament nous appelle à passer à l'action. Il ne nous dit pas que cette œuvre de sanctification sera accomplie à notre place. Nous sommes dans le bon combat de la foi et nous devons nous-mêmes combattre. Cela dit, merci Seigneur, car la force, elle nous est donnée de le faire, et cela au moment même où nous croyons que nous sommes justifiés par la foi et que nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit et que nous en devenons ainsi capables. Et oui, la méthode de sanctification du Nouveau Testament, elle nous rappelle, et nous l'ayons rappelé, elle nous dit maintenant. Aujourd'hui même, lève-toi et agis. Donc, c'est totalement différent du café au lait avec un bon croissant le matin. Et c'est pour cette raison que, en rédigeant la liste des raisons pour lesquelles les croyants ne croissent pas autant qu'ils le devraient, un vieux théologien hollandais a non seulement mentionné les raisons évangéliques telles que douter de son salut et de abuser de la grâce, mais également la pure et simple paresse. Nous désirons vraiment être dans un état spirituel élevé et croire tel un palmier qui va grandir devant nous. Mais nous ne voulons pas fournir, absolument pas, fournir le moindre effort. Je répète cela un peu différemment. Nous désirons être dans un état spirituel très élevé et ainsi de pouvoir croître, grandir, un peu comme un palmier. Mais, nous ne voulons pas fournir le moindre effort. Par conséquent, nous n'allons rien recevoir. C'est une autre façon de dire que le quiétisme n'a pas sa place dans les quêtes qui mènent à la ressemblance de Jésus-Christ. En terminant pour aujourd'hui, sachez qu'il est important de savoir, car plusieurs chrétiens stagnent tout simplement, par un manque d'effort. Ils ont donc besoin de connaître la puissance du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être enracinés dans la grâce de l'Évangile. Ils ont besoin de croire les promesses de Dieu. Ils ont aussi besoin de combattre, de persévérer et de déployer tous leurs efforts pour tirer le meilleur de l'œuvre de Dieu en eux. Alors unissons nos voix à celle de l'apôtre Paul, qui nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, bien loin de là. J'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Donc, dans cette spécification biblique, nous serions déconcertés et nous demandons pourquoi la sanctification ne découle pas automatiquement d'un engagement du cœur dans la justification de l'Évangile. Nous attendrions donc d'avoir suffisamment de foi pour vraiment saisir l'Évangile à la place de rester assis dans le fauteuil, alors que Dieu veut que nous nous levons et que nous travaillions. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Tout cela lorsqu'il s'agit de croître dans la sainteté et de mettre ainsi notre confiance en Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devons cesser tout effort. Bien au contraire. Chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Prions. Dieu notre Père céleste, tu nous dis, ne crains rien, car le Seigneur Jésus est avec vous. Ne promène pas des regards inquiets, car il est notre Seigneur. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ceux qui se confient en Jésus-Christ renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Jésus-Christ rompra les portes d'airain, il brisera les verrous de fer. Si nous traversons les eaux, elles ne nous submergeront point. Si nous marchons dans le feu, la flamme ne nous brûlera pas. Car lui, Jésus-Christ, nous a aimés d'un amour éternel. Lui, le Seigneur, qui est le premier et le dernier. Qui nous séparera de l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes beaucoup plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Et rappelez-vous que Dieu vous aime, et il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, oui maintenant, je vous enlace et je vous embrasse tous. Et je vous dis, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et pour terminer, j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé, 1954. Évidemment, ça a beaucoup perdu de sa netteté, étant donné que j'ai dû traverser de l'enregistrement sur bande avec un Revox, ensuite transféré sur cassette, ensuite encore maintenant sur CD, alors vous comprenez qu'il peut même y avoir des ratés. Mais essayons tout de même.
He became a man like us. He met people where they were, and one by one, he changed them. Bethlehem, he was born there. I believe. Galilee, Jesus walked there. I believe. Gethsemane, my Savior prayed there. On Calvary, he died alone. But the tomb Jesus left there. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Thank you.